Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de L'Ambersart en ondes, la sixième maintenant il me semble.
Et oui, la sixième.
Cette édition encore, comme la dernière fois où nous avions interviewé le maire, nous avons un nouvel invité. Victor, je te laisse l'introduire.
Frédéric Dehaze, donc on va très rapidement commencer. Vous avez lancé la fusion entre deux clubs de foot à L'Ambersart, ou du moins participé activement. Et donc on voulait donc vous interviewer aujourd'hui sur pas mal de sujets, la fusion et aussi votre activité au sein de l'association. On a plein de questions aujourd'hui à vous poser.
Donc on va commencer sans plus tarder, bonjour.
Bonjour.
Encore une fois, bienvenue dans nos studios à RTL.
Merci.
Radio. On est ravis de vous avoir. On voulait résumer en quelques mots ce qu'est l'Union FC, mais on pense que vous le ferez beaucoup mieux que nous. Donc est-ce que vous pourriez le faire rapidement en deux phrases, vous présenter et introduire du coup l'association ?
Eh bien, pour me présenter, donc Frédéric Dehaze, j'ai 47 ans et je suis effectivement le premier président de l'Union Football de L'Ambersart, qui est né le 11 juin 2021 et qui est le fruit de la fusion entre les deux clubs historiques de la ville, d'un côté l'Iris Club de L'Ambersart et de l'autre le Football Club de L'Ambersart. Moi, je ne suis plus président à l'heure actuelle, j'ai été président entre le moment de la fusion, le moment de la création du club, jusqu'à mai l'année dernière, où j'ai décidé de démissionner. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, voilà, si je pense avoir répondu à votre question.
Parfait, merci.
Et donc à l'origine, vous étiez dans l'un des deux clubs avant la fusion, côté FC L'Ambersart, c'est ça ?
Oui, c'est ça. J'ai été élu président du football club de L'Ambersart en 2005. Et j'ai été donc président de cette association pendant 18 ans. Un club qui était à l'origine issu d'un patronage, ce qu'on appelait un patronage de l'église Fatima. Le nom original d'ailleurs du football club était le Fatima Sport Football. Il a changé de nom en 84, si ma mémoire est bonne, pour devenir le football club. Et j'en ai pris donc la présidence en 2005. C'était un club essentiellement familial, avec vraiment les Lambersartois. On avait jusqu'à 80% de Lambersartois dans les effectifs. À l'inverse de l'Iris, qui était un club historique qui a d'ailleurs contribué à la création du LOSC à l'époque. Hein. Enfin, il y a vraiment un berceau, une histoire du football très forte au niveau de l'Iris, et qui était composé à l'époque majoritairement de joueurs extérieurs à la ville, à savoir 20% de Lambersartois, à peu près 80% de joueurs extérieurs. Ça s'expliquait notamment par la recherche permanente du haut niveau qui faisait partie de leur ADN et de leur histoire, en fait.
D'accord, donc deux clubs avec des identités du coup très, très différentes.
Tout à fait, des identités très très différentes et à mon sens complémentaires.
Du coup aujourd'hui, donc vous avez parlé d'un peu de votre parcours au sein de l'association, aujourd'hui quel est votre rôle ?
Alors bah écoutez, dans l'association, dans le football, j'ai tout fait, je pense. J'ai été de bénévole aussi bien à la buvette que à la gestion du matériel, à éducateur, en passant par très occasionnellement arbitre, et puis donc trésorier, vice-président, puis président, ce qui a duré quand même un petit moment, comme je vous l'ai dit. J'ai démissionné de mes fonctions de président donc en mai, et aujourd'hui j'ai une licence de dirigeant. J'ai arrêté également d'être éducateur, j'ai pris un peu de distance, ne serait-ce que par respect pour les personnes qui ont pris ma suite, parce que je pense que je suis toujours, je fais partie du conseil d'administration, donc je suis toujours très attentif à ce qui se passe et investi, puisque je suis par exemple, dans la vie professionnelle, je suis agent immobilier. Et je sponsorise tous les ans, je fais un don pour permettre au club de bien travailler. Donc je suis sponsor de l'équipe première et de l'équipe 18 ans cette année. Mais mon rôle se limite à ça, ne serait-ce que parce que quand on prend une direction, etc., c'est toujours un peu compliqué quand le prédécesseur il est toujours là. Donc il fallait laisser la nouvelle équipe faire son travail, tout simplement.
On l'a vu sur notre club. Et pour revenir sur votre engagement, quelles sont les raisons ? Vous êtes un passionné de foot, on imagine, qui a envie de s'investir. Aussi, Lambersartois depuis toujours, vous l'avez dit, c'est un peu ces deux raisons-là qui se couplent et qui font que voilà, vous vous êtes super longuement engagé au service de ce club et de ces deux clubs.
C'est vrai que prendre la présidence d'un club de la taille du football club à l'époque, quand j'avais 28 ans, c'était quasiment du jamais vu sur le district, et surtout qu'on l'a amené, on l'a structuré, c'est devenu un club de ligue, etc. Donc c'était une superbe aventure humaine qui a été possible grâce au travail de tous mes prédécesseurs. Hein. Je rends hommage d'ailleurs, je profite de ce micro pour rendre hommage à monsieur Jean-Paul Lefebvre qui est décédé récemment et qui a été le président qui m'a précédé et qui avait fait un travail lui aussi extraordinaire comme beaucoup d'autres. Je pense aussi à Jean Bourrèze ou des gens comme ça qui nous ont quittés l'année dernière. Donc effectivement, j'ai toujours été très très impliqué dans la ville. Je suis Lambersartois effectivement depuis toujours. Et pour moi, le football m'a beaucoup donné en tant que personne, en tant qu'être humain, et les bénévoles de ce club d'ailleurs, du football club. Donc pour moi, c'était le fait de m'y investir, c'était une façon de rendre ce qu'on m'avait donné. C'est pour ça que l'engagement a été, je pense, aussi long et passionné. Voilà, après j'ai dû prendre des décisions pour rester en accord avec moi-même et je peux vous dire que ça n'a pas été très simple.
Et justement, on va en revenir. Pauline, je te laisse introduire.
Ouais, du coup, on va partir un peu sur donc l'historique de la fusion, parce que vous l'avez évoqué, la fusion entre les deux clubs au début de cette interview. On voulait revenir un peu plus en profondeur dessus, donc on va commencer par le début. Donc c'est en 2021 que les deux clubs ont fusionné, faisant de Lambersart un des plus gros clubs de la région. D'où vient le projet? Comment a-t-il été mené?
Alors en fait, la fusion à la base, c'était un peu un serpent de mer. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un même territoire, avoir deux clubs de cette importance, puisqu'ils étaient tous les deux à peu près entre 500 et 600 licenciés, c'était quelque chose d'assez incroyable et qu'on ne retrouve pas dans des villes de cette taille. Mais il y avait une telle différence d'identité que c'était compliqué à envisager. Et puis, il y a eu les élections municipales. Et le nouveau maire, Nicolas Bouche, nous a très clairement pas laissé le choix et nous a dit voilà, on vous laisse un an pour fusionner ou on vous supprime entre guillemets tous les deux et on met une nouvelle association qui redémarrera de zéro. Du coup, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire qu'on s'est mis tous à table avec nos divergences. Ça n'a pas été simple, il y a eu un travail de titan qui a été organisé en seulement un an. Et là aussi, je rends hommage à des personnes qui se sont investies énormément dans ce projet, même si c'était pas facile. Et je peux vous dire quand on prend la tête d'une association, qui plus est avec... l'ambiance actuelle, la violence qui peut exister, il faut avoir quand même beaucoup de tempérament et beaucoup de conviction. Donc autant vous dire que mettre autour de la table des gens qui avaient pas toujours les mêmes idées avec autant de caractère, ça n'a pas toujours été simple. Mais chacun a su faire ce qu'il fallait pour aller vers l'intérêt général et aboutir en moins d'un an finalement à réussir à faire cette fusion qui est, je crois, en termes de taille, sans précédent non plus. Et quand vous disiez qu'on était devenu l'un des clubs les plus importants des Hauts-de-France, non, c'était le club le plus important des Hauts-de-France, avec un effectif de près de 1000 licenciés. Donc là encore, c'est des strates qui n'avaient pas été atteintes. On était, de mémoire, dans les 15 premiers clubs en France sur 15 000 en termes d'effectifs, et le premier donc des Hauts-de-France.
Et donc sur le côté pratique, comment garder l'identité des deux clubs? Parce que vous l'avez dit, le côté élitiste, le côté plus familial de l'autre, tout en créant de la nouveauté, comment ça a marché? Parce que j'imagine que les négociations ont été extrêmement ardues.
Oui, ça n'a pas été simple, mais encore une fois, je rends hommage à tout le monde, malgré nos divergences et nos tensions, parce qu'il y en a eu, bien sûr.
Sur les blasons, notamment, j'ai cru voir que ça avait été assez...
Oui, alors sincèrement, le blason, finalement, c'est venu assez vite, parce qu'on a choisi de ne pas garder les couleurs, de faire un clin d'œil à chaque couleur, plutôt, tout en étant plutôt neutre. Donc on a gardé le noir comme étant une couleur relativement neutre, qui en plus amincit, pour les vétérans c'est bien. Et puis on a gardé la couleur or qui était issue de l'iris, qui était sang et or, et la couleur blanche qui était violet et blanc. Donc on a pris les couleurs secondaires en fait, hein, des deux clubs. Ça c'était pour le blason. On a gardé l'emblème de la ville parce qu'on a vraiment, on voulait une forte identité lambersartoise. Et au niveau du projet, on avait réussi à faire un truc pour moi extraordinaire, c'est-à-dire qu'on avait fait deux sections, une section élite et une section classique, entre guillemets, qu'on appelait formation. Et donc, vous aviez, l'enjeu dans ce genre d'association, c'est le recrutement. Comment on intègre des jeunes dans nos effectifs? Et donc, la section football avait pour mission d'intégrer tous les Lambersartois, donc on gardait l'esprit famille, et on avait une section élite par catégorie d'âge à partir des U12, c'est-à-dire l'entrée au collège, là où il y a des sections sport-études, de manière à préparer pour chaque génération, logiquement, une équipe qui évolue en élite, c'est-à-dire en ligue, le plus haut niveau possible, voire au niveau national si on y arrivait, et une équipe au niveau qui restait au niveau district, de manière à ce que les enfants de Lambersart puissent continuer à jouer, quel que soit leur niveau, quelque part, de débutant jusqu'à senior. Voilà le projet d'origine tel qu'on l'a monté et tel qu'on l'a lancé la première année.
Bah, du coup, là, on va partir un peu sur un point que vous avez évoqué avec moi avant le début de cette interview.
Oui.
Vous aviez parlé dans les pages de La Voix du Nord des problèmes de subventions pas assez importants selon vos mots. Quelles étaient vos attentes? Quelle a été la réaction de la mairie? En quoi consistaient du coup ces problèmes de subventions?
Alors en fait, la problématique, si vous voulez, qui s'est posée très rapidement, c'est qu'il y avait une volonté politique de faire un seul club à Lambersart. Ce qui, ma foi, il ne vous a pas échappé que j'étais candidat moi-même aux élections municipales et que la fusion des deux clubs faisait également partie de mon programme. Donc je pouvais décemment pas dire que l'idée de réunir les deux clubs n'était pas une bonne idée. Mais il y a le fond, il y a la forme. C'est-à-dire que réunir les deux clubs, d'accord, mais avec quels moyens? Parce que la difficulté était essentiellement les difficultés de fonctionnement. Aujourd'hui, avant la fusion, on est arrivé un petit peu aux limites. Les deux clubs étaient évolués au niveau ligue avec un niveau de subvention faible par rapport à ce qui se passe dans les autres villes des Hauts-de-France et de France. Et donc, on pourra en reparler, mais pour moi, il y avait tous les week-ends une vraie prise de risque par rapport notamment aux enfants. On aura l'occasion d'aller plus loin là-dessus, j'ai aucun souci là-dessus. Et donc, si vous voulez, le projet était global. Oui, on réunissait les deux clubs, mais un, il y avait une remise à niveau absolument nécessaire des installations qui sont indignes d'un club de football, très clairement de ce niveau-là. Et il y avait un accompagnement financier qu'on demandait juste à hauteur de ce qui se fait d'à peu près comparable, puisque rien n'était comparable, on était le premier club des Hauts-de-France. Mais pour vous donner un ordre d'idée, et en termes de niveau de compétition, à part les clubs professionnels, on était les premiers aussi, puisque toutes nos équipes premières évoluaient en Régional 1 la première année. Et donc, tout simplement, il n'y avait pas d'équivalent. Aucun club, ni Wascal, ni Marc-en-Barœul, ni Croix, ne proposait un niveau de compétition aussi élevé. Donc, il fallait nous accompagner structurellement et financièrement. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui était partagé. Et j'ai eu la tristesse de constater que ce n'est pas ce qui s'est passé dans les faits.
Et cela a débouché finalement sur votre démission? C'est la cause numéro une?
Oui, très, très, très clairement. C'est-à-dire que, pour parler chiffres, si vous voulez qu'on soit dans le détail et dans le concret, quand on regarde des clubs comme Marc-en-Barœul, Croix ou Wascal, le niveau de subvention va se situer au moins à 100 000 euros. Enfin, c'est bien plus, c'est 120, voire plus. Tourcoing, c'est 250 000 euros. Vous voyez, et pour des clubs qui n'ont pas autant d'effectifs et qui n'ont pas autant d'équipes en R1, ce qu'on appelle la R1 à l'époque. Donc, nous, on était partis sur un postulat de départ, de dire que pour fonctionner dans le minimum du minimum et en mettant tout le monde en adéquation avec les attentes de la Fédération française de football, mais aussi en sécurité pour les déplacements, il fallait 100 000 euros. C'était un diagnostic partagé et il y avait au moins un engagement oral et moral de la commune là-dessus. Il y avait également l'engagement de refaire les installations, puisque on a des terrains synthétiques qui sont dans un état absolument déplorable, et le club house de Guy Lefort qui est, j'y mettrai pas mes animaux domestiques le week-end, quoi, c'est honteux. Donc, et il y avait un engagement de refaire les deux terrains, refaire le club house, et nous accompagner à hauteur d'environ 100 000 euros chaque année.
Et combien vous avez reçu, enfin le club a reçu, c'est 60 000 euros environ?
65 000 précisément. Okay. Donc il y avait un delta de 35 000 euros entre ce qui était prévu et annoncé et ce qui a été finalement octroyé. Donc ça a été évidemment une catastrophe.
Donc ces fonds-là, c'est, vous l'avez dit, pour le clubhouse, les terrains, les déplacements des jeunes, c'est tout cela que ça devait servir pour les auditeurs.
Alors pour être très clair, il faut savoir que 100 000 euros, ça peut paraître une somme importante, mais quand vous le ramenez à 1 000 licenciés, c'est pas tant que ça. D'autant que, si vous voulez, vous avez des obligations qui sont faites par la fédération. Quand vous encadrez une équipe de district, vous pouvez avoir un éducateur diplômé qui va avoir ce qu'on appelle un diplôme fédéral. Donc c'est le premier niveau d'encadrement nécessaire. C'est un diplôme qui ne coûte pas très cher. Et donc c'est souvent encore des bénévoles, même s'il y a, il y a un système de défraiement hein, qui est mis en place souvent pour les bénévoles, mais ça ne coûte pas très cher. Par contre, quand vous êtes en ligue, il faut un brevet d'État. Et le brevet d'État, évidemment, c'est pas le même prix à former, c'est pas le même prix à garder. Et donc, pour avoir un encadrement et répondre à la demande, il faut plus d'argent. Idem pour les déplacements. Quand vous allez jouer à Lille-Louvière ou à l'Homme Délivrance ou à Saint-André, bon, c'est très sympathique et le déplacement est pas très compliqué. Quand vous jouez à Amiens, Boulogne-sur-Mer ou Creil ou Maubeuge, c'est pas la même distance, c'est pas les mêmes risques et bien évidemment, on est censé pouvoir mettre à disposition des bus, des minibus, ouais, des choses comme ça.
C'est plus les familles qui font des
systèmes. Ça coûte cher. Il vous a pas échappé que la situation économique est quand même dramatique pour beaucoup et faire 250 bornes pour aller et 250 bornes retour pour aller faire un match de football et emmener des enfants qui ne sont pas les siens en plus, parce qu'il y a aussi tous les risques d'assurance qui sont liés, etc. Il faut, c'est impératif, avoir un budget de fonctionnement qui permette de faire sereinement ces déplacements. Donc les familles payent déjà beaucoup, on est à des licences à 250 €, hein, c'est très très cher. Pour autant, sans cette subvention, il était absolument impossible de continuer à faire ce travail-là.
Et du coup, concrètement, pour l'organisation, enfin, est-ce que ce sont les familles qui accompagnent les jeunes maintenant dans les compétitions ou comment ça s'organise ?
On n'a pas le choix, c'est-à-dire que on a deux minibus qui étaient la propriété d'un des deux anciens clubs qu'on a récupérés, qui sont dans un état. Je salue les bénévoles et je pense notamment à Sandrine qui se reconnaîtra, qui fait un travail avec d'autres exceptionnel pour les maintenir en bon état. Mais bon, ils vieillissent. Quand il va falloir les renouveler, je ne sais pas comment les choses vont être possibles, mais il n'y a que deux minibus. Ça veut dire soit deux équipes de jeu réduit, soit une seule équipe de jeu à 11 qui se déplace, en sachant qu'on a 45 équipes. Donc, c'est très difficile.
Et justement, sur cette fusion, si c'était à refaire, est-ce que vous l'auriez refait, finalement, ou avec autant de... Là, on entend un peu votre déception sur le manque de financement, etc. L'autre projet, c'était quoi ? C'était fusion, ou sinon, on repart de zéro ? Est-ce que ça n'aurait pas été la meilleure solution ou...
Vous savez, pour atteindre le niveau ligue, que ce soit en senior, que ce soit... Ce qui fait l'attrait d'un club, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des clubs dans toutes les villes. Sur un rayon de 5 km, vous savez, il y a pas très longtemps, il y a des personnes qui parlaient du hockey, parce que le hockey à Lambersart joue la Coupe d'Europe, etc. Et c'est super, je connais bien Laurent Frappard, qui est le président de ce club et qui fait un travail formidable depuis des années. Mais à un moment donné, il y a des personnes qui voulaient se risquer à comparer ce qu'ils arrivaient à faire, etc. Il y a, je crois, 20 000 pratiquants de hockey en France. On est 2 millions passés au niveau du football. Ça veut dire que la population des pratiquants du hockey se retrouve dans la métropole. Donc, tout ça pour vous dire que le choix des pratiquants, il n'y a pas de club à Lambersart, ils peuvent aller jouer à Saint-André. Vous voyez, ils peuvent aller à l'Homme. À l'Homme, il y a deux ou trois clubs. Enfin, il y a énormément de possibilités. Donc repartir à zéro, qu'est-ce qui fait qu'un joueur va choisir un club ? C'est pas l'attrait et l'appartenance à la ville, ça va être le niveau de compétition et le niveau d'encadrement qui est proposé. Donc partir de zéro, avec des moyens qui permettaient d'avoir des encadrants super top, pourquoi pas ? Mais partir de zéro, avec en plus le maintien des moyens qu'on a, c'était n'importe quoi. Et puis il y a aussi une histoire. Pour arriver au niveau ligue, il y a quand même des gens qui se sont investis corps et âme dans ces deux clubs pendant des années. C'était insulter l'histoire, à mon sens, de vouloir supprimer les deux clubs. Donc il fallait, on n'avait pas le choix, faire cette fusion. Alors est-ce qu'on le referait ? De toute façon, on n'avait pas le choix. Donc,
donc c'était une nécessité.
C'était un impératif. C'était ça où ça disparaissait. Est-ce que je suis heureux et épanoui, footballistiquement parlant, 2 ans après la fusion, 3 ans après la fusion ? Moi, non. Et je pense qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de déceptions. Maintenant, on n'est pas éternel, on n'est que de passage, et il y a une super équipe qui a pris la suite. Et je trouve que ce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, puisque le problème des moyens reste le même, est extraordinaire.
Et du coup, est-ce que cette fusion, a permis un progrès au niveau des résultats de compétition, a permis des avantages pour les deux clubs? Parce que vous entendre, on dirait que c'était vraiment compliqué et que ça allait toujours. Est-ce qu'il y a quand même des points positifs à cette fusion?
Écoutez, sincèrement, dire qu'on a progressé au niveau du niveau de compétition, ce serait dire des bêtises, puisque on était déjà au maximum possible. Si on aurait pu prétendre aller jouer en national avec certaines, générations, mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, non. Ce que je peux vous dire, c'est que 3 ans après la fusion, moi, quand je suis parti, vous savez, la fédération décerne des labels de qualité sur ce que vous pouvez faire, donc vous candidatez. Et vous êtes reçu à différents labels. Donc on a le label argent pour les féminines. Quand je suis parti, on était label bronze et on avait déposé pour label argent. Et c'est donc maintenant le label argent au niveau des féminines. Donc c'est super.
Et ça récompense quoi précisément le label?
La qualité de l'encadrement, la promotion du foot féminin, le fait qu'on joue à un certain niveau donc, et qu'il y ait un projet qui soit cohérent sur les féminines. Donc ça c'est super, c'est une vraie fierté. Et puis... surtout le label élite au niveau de la formation des jeunes, donc c'est ce qui se fait de mieux. Et donc quand je suis parti, on savait, il y a un travail de plusieurs bénévoles qui se sont vraiment investis là-dessus avec l'ensemble de la direction du club. Et aujourd'hui, je crois que Lambersart peut être fier, et j'espère que c'est le cas, d'avoir un club qui est élite au niveau de sa formation et argent au niveau des féminines. Et ça, on le doit à l'équipe qui est en place, hein, et notamment, maintenant, j'ai mon successeur qui s'appelle Robert Terrasse, et qui, avec son équipe, a permis de finaliser tout ce travail qui a démarré dès la fusion, en fait.
Et alors, justement, quelles sont leurs ambitions maintenant? Vous qui êtes dirigeant, vous devez peut-être un peu suivre ça de derrière, mais quelles sont les ambitions pour la suite, pour les prochaines années, composer avec ce qu'ils ont au niveau budget?
C'est ça, je dirais que les ambitions vont être liées aussi aux moyens, évidemment. Donc moi, je suis le premier pour dire qu'on ne doit pas attendre de la municipalité d'être un espèce de fournisseur de fonds. On sait que c'est difficile pour eux aussi. De leur point de vue, c'était impossible de tenir les engagements initiaux parce que la ville... quand on les écoute, n'a plus d'argent. Je ne partage pas personnellement cette vision, mais c'est pas le club, c'est moi. Je pense que c'est une question de choix et de stratégie. Ils ont une stratégie qui ne passe pas par le développement du sport et du football. Ils estiment que c'est super. Ils ont fait un terrain, faut leur rendre grâce là-dessus. Ils ont fait un des deux terrains. Le clubhouse est remis au calanque grec, donc on verra quand ça arrivera, mais c'est plus que nécessaire. Donc le club aujourd'hui, il gère avec les moyens qui sont les siens. Ils essayent de développer aussi le sponsoring, puisque c'est une façon de pouvoir rentrer de l'argent. J'ai moi-même contribué d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais la crise économique, elle est là pour tout le monde. Et en plus, c'est pareil, quand vous allez démarcher des entreprises pour éventuellement sponsoriser un club, les clubs de football, il y en a plein. Et du coup, la concurrence, elle est féroce. Là où je reprends l'exemple du hockey, encore une fois, avec beaucoup d'admiration pour ce qui est fait et la dynamique qu'il y a là-bas. Mais si vous aimez le hockey, par exemple, vous dites, tiens, je vais sponsoriser du hockey, de toute façon, des clubs, il n'y en a pas énormément dans la région. Alors que si vous faites du football, il y en a 50 sur 10 km², quoi.
J'ai juste une question peut-être pratique pour les auditeurs. Comment ça fonctionne l'union au niveau des deux terrains? Parce qu'il y a Guy Lefort d'un côté, Georges Delphos de l'autre. Comment ça fonctionne? Quelle équipe on va retrouver au niveau des complexes sportifs? Est-ce que c'est mélangé ou ça marche comment?
Oui, alors c'est un peu complexe de vous donner une réponse parce que c'est vrai que les plannings se font chaque année. Il y a plutôt un souhait d'être sur l'effectif réduit et les féminines sur Delphos. Mais c'est pas une vérité parce que, si vous voulez, sur Delphos, il y a un seul terrain synthétique qui est pas très grand, qui est même pas aux normes et qui est dans un état absolument déplorable. Et il y a deux terrains verts qui sont rarement praticables.
Donc, terrain d'honneur et...
le fameux terrain d'honneur et le petit terrain vert, sans compter qu'on avait bon espoir d'avoir un travail de fond fait pour pouvoir peut-être récupérer un terrain aux normes sur Delphos, mais c'est compromis par l'espèce de pylône là, qui a été mis en plein milieu du stade. On a été surpris d'apprendre ça. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai cru comprendre que la ville est plutôt partie pour étendre le club de tennis sur le petit terrain vert. Donc on va avoir une suppression de surface. Là encore, je connais bien le club de tennis et son président. C'est plutôt bien qu'il puisse se développer. Par contre, quand on dit qu'ils sont sous-exploités les terrains, donc on peut agrandir les clubs de tennis, puisque en gros, le terrain est sous-exploité, forcément, puisque un, il est trop petit, deux, il est mal entretenu, et donc il n'est pas drainé, donc on peut juste pas jouer dessus sans l'abîmer. Donc à un moment donné, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, je crois que dans l'exploitation d'un club uni et fort, avec un peu plus de moyens, le club de tennis peut se développer sur le petit terrain vert à partir du moment où on a un voire deux terrains synthétiques, ou au moins un terrain synthétique qui est refait, parce que là il est dangereux, et un terrain d'honneur qui soit praticable un peu plus souvent. Voilà.
Donc vous nous faites une belle transition. Vous voulez revenir notamment sur les terrains. Vous avez évoqué les problèmes d'entretien de ces terrains-là. En tout, vous avez 5 terrains, il me semble, donc 4 synthétiques. Corrigez-moi si je me trompe, mais l'un d'eux devait
être... C'est pas tout à fait ça. Okay. Il y a trois synthés et deux herbes.
Ok, 3 synthétiques. Et l'un d'eux donc, avait été promis, la mairie avait promis de le refaire.
Oui.
Qu'en est-il ? Dans quels états sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ?
Alors, si vous voulez, les terrains synthétiques, on a vu une très nette dégradation de leur état depuis 2020. Pour quelle raison ? C'est que la municipalité a fait le choix de laisser l'accès libre. Donc là où avant les terrains étaient fermés et réservés aux pratiquants de football et aux écoles, aujourd'hui un kidam qui arrive avec son sac a le droit de jouer. La problématique, et on s'est vraiment battu là-dessus, et je sais que c'est un vrai problème pour les bénévoles, même en termes de sécurité parfois, vous avez des gens qui viennent de l'extérieur et qui ne respectent pas forcément les installations, et donc il y a des dégradations. Enfin, il y a eu aussi, si vous voulez, le confinement, donc derrière il y avait le choix de laisser pour le sport les stades ouverts. On a assisté à une dégradation fulgurante des terrains. Donc sur les 3 terrains synthétiques, oui, il y en a un qui a été refait, c'est le terrain du fond, et il est, on peut remercier la municipalité qui a fait un très beau travail, et le terrain est super.
Donc ça, c'est celui, juste je vous coupe, de Delphos,
de Lefort. De Lefort, celui, ce qu'on appelle le terrain du fond, le terrain 2. Le terrain d'honneur qui est autour de la piste d'athlétisme, il est catastrophique, il est dangereux. C'est un héritage de l'ancienne municipalité, puisque que ce soit la piste d'athlétisme, je vous invite à aller vous rendre sur place, elle part en morceaux, et en fait le terrain synthétique c'est vraiment du très très bas de gamme, donc les appuis ne sont pas bons, et c'est quasiment impossible de jouer sans tomber quand par exemple le temps est humide, et il ne vous a pas échappé que c'est quand même particulièrement compliqué en ce moment. Donc on a un nombre de blessures incroyable, et il serait nécessaire de refaire ce terrain d'honneur, ce qui est parfaitement intégré par la municipalité, mais encore une fois leur discours c'est de dire on n'a pas les moyens de le faire, en tout cas pour l'instant. Et le petit terrain synthétique de Delphos, donc là c'est pareil, hein, j'ai des photos, hein, ça part en lambeaux. Il a été maintenu pendant des années parce qu'il y avait une politique d'accès différente. Aujourd'hui, on ne peut pas, à mon avis, à la fois permettre à tout le monde d'aller faire du sport et en même temps ne pas mettre de moyens pour avoir une qualité différente au niveau des installations. C'est un peu comme si vous mettiez un parquet premier prix dans un magasin où vous avez du passage toute la journée. Au bout de 2 mois, votre parquet il est complètement mort et ce serait normal. C'est un peu ce qui se passe à mon avis.
Donc ces terrains sont strictement réservés aux adhérents, même si des gens viennent jouer.
C'est
ça qui est un peu dommage aussi, c'est que finalement, malgré le fait que les moyens ne suivent pas, comme vous l'avez dit, que tous les Lambersartois, même s'ils ne sont pas adhérents, ne peuvent pas...
Ah si, justement, ils y ont accès un peu n'importe comment,
ouais,
et de manière complètement anarchique. Donc,
mais la politique, c'est quoi, justement ? C'est, vous savez, c'est, on accueille, mais d'un autre côté, il y a...
Si vous voulez, le club évolue sur des installations qui sont municipales. Mm-hmm. Donc, le club a des créneaux. Donc, quand c'est le créneau, à nous de faire la police et à permettre à récupérer le terrain pour pouvoir faire nos entraînements, ça se passe relativement bien. Mais quand il n'y a pas d'occupation de notre association, ben, vous y allez avec un ballon, vous pouvez aller jouer, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est qu'il n'y a personne qui regarde si au niveau de vos chaussures, vous avez des chaussures de football ou des chaussures de ski. Donc, si ça défonce le terrain, ben, voilà, il n'y a personne qui peut contrôler. Alors, il y a du personnel municipal qui est en place, que je salue, parce qu'ils font un travail vraiment exceptionnel. Mais les pauvres, ils sont là, c'est compliqué quand même, le temps même qu'ils interviennent. Vous savez, parfois, il y a des garçons qui arrivent avec des vélos, ils traversent le terrain. Bon, bah, le temps qu'ils aperçoivent et qu'ils viennent le recadrer, le mal est fait, quoi. Le vélo, il est passé. Hein. Le chien, le truc, enfin, faut voir. Et nous, on a régulièrement des problèmes de tension parce que, comme on dit que c'est ouvert, on a parfois des matchs qui se jouent, par exemple. Et vous avez la piste d'athlétisme qui est autour. Bah, vous avez des gens qui arrivent, qui font leur petit jogging, parfois avec le chien qui suit, etc. Donc, nous, nos bénévoles ou le concierge, hein, parce que c'est la même chose, ils viennent dire vous n'avez pas le droit. Faut voir comment on se fait insulter. Enfin, c'est hallucinant. Hein. Donc, bon, voilà. Là, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de courage. Je parlais de violence tout à l'heure. Il faut beaucoup de courage aux bénévoles. Et je profite là aussi du micro pour vraiment rendre hommage à tous ces gens qui font de leur mieux au quotidien pour permettre aux enfants et aux plus grands de jouer au football.
Ce micro de RPL Radio, on est sur Lambersart en ondes. On continue avec vous, Frédéric Dehaze, sur maintenant une partie centrée aussi sur l'entraînement des équipes, les ambitions. On a encore quelques questions à vous poser. Alors, les entraînements, on en avait parlé, hein, ça se répartit entre les deux complexes,
oui.
Finalement. Et là, on a une question plus précise. Vous vouliez faire donc, de l'Union un club ouvert à tous. On évoquait l'idée donc, d'avoir plus de 1000 adhérents. Et pourtant, la jauge a été baissée. Est-ce que vous n'étiez pas un peu trop optimiste de...
Ah non, pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, on aurait même pu être au-delà de 1000. Je pense qu'on avait un potentiel à 1200 pour moi, hein, on avait vraiment étudié les choses. Sauf que entre le budget qui était prévu et les installations qui étaient en face, par exemple, dans le nouveau clubhouse, on était censé avoir un bureau pour les permanents. On était censé aussi avoir de meilleures conditions de stockage de matériel. Tout ça, c'est des problématiques extrêmement importantes qui n'ont pas été résolues à ce jour, même si je ne dis pas que la municipalité n'a rien fait, notamment sur le stockage du matériel à Lefort, elle a donné quelques possibilités supplémentaires. Mais on est quand même très très loin de ce qu'il faudrait pour être au minimum dans la dignité de l'accueil des personnes, notamment au niveau du clubhouse. Sincèrement, le clubhouse, c'est un sketch. Donc, si vous voulez, il a fallu réduire la jauge pour réduire aussi le risque de problème, parce que qui dit moins de subventions de fonctionnement dit moins de possibilités de déplacement, moins de possibilités d'encadrement. Et il y a un moment donné, vous savez, quand vous avez une équipe qui joue en ligue à un très haut niveau, que vous dites tiens, je cherche un éducateur, vous avez 50 CV de personnes qui voudraient encadrer cette équipe. Quand vous dites je fais une équipe de district avec des joueurs qui ne savent pas trop jouer, mais enfin l'idée c'est qu'on puisse leur permettre de jouer, les diplômés disent moi je m'en fous quoi. Donc du coup il faut que le projet global les accueille et que les subventions permettent soit de payer les formations, etc. Et là c'est avec la subvention octroyée par la ville, c'est impossible. Donc du coup la seule solution qui était possible, c'était de réduire les effectifs pour limiter les problématiques d'encadrement en fait.
Parce que au FC Lambersart, il y avait combien avant d'adhérents
On est monté jusqu'à 600.
Ok, donc, et à l'Iris, c'était un peu
à peu près pareil.
Ah ouais, donc ça fait quand même... là, on voyait dans la Voie du Nord peut-être 800...
On est à 857, si je ne vous dis pas de bêtises, cette année.
300 personnes qui donc ont été malheureusement... soit arrêtées de leurs propres raisons personnelles. Hein, mais...
Oui, quand il y a eu la fusion, il y a des gens qui n'ont pas compris le projet. Évidemment, de manière globale, vous avez des gens qui n'aiment pas le changement. Ils étaient habitués, puis on peut le comprendre, c'était une déchirure pour les bénévoles des deux clubs historiques, hein, de devoir abandonner ce qui, pour certains, représentait une vie d'engagement. Donc il y a eu une déperdition qu'on avait même pensé plus importante. Donc on a commencé la première année, je crois qu'on est passé de 1100 à 1000. Donc on a perdu très 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 peu de monde la première année. Mais quand il a fallu lancer le projet de la deuxième et qu'entre-temps on s'était pris la nouvelle de ce qui allait se passer, bah forcément là il y a eu des choix déjà de supprimer certaines équipes parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir les encadrer correctement, ce qui était d'ailleurs le cas, et puis des déçus qui sont partis parce que la première année tout le monde espère peut-être jouer en équipe première, avoir des responsabilités, etc. Puis à un moment donné il y a des choix qui sont faits qui ne plaisent pas à tout le monde et puis c'est là où l'ego des uns peut les amener à aller dans d'autres clubs pour avoir des responsabilités qu'ils n'auraient pas eues dans la structure de l'Union.
Et juste, quand vous parlez de suppression d'équipes, du coup, c'est les joueurs qui étaient dans ces équipes-là, ils ont décidé de partir ou vous n'avez juste pas renouvelé leur licence ?
Ça dépend de nous. On a mis dehors personne. On a juste été honnête sur le fait qu'à un moment donné, par exemple, quand vous avez une équipe qui joue en ligue, on va limiter un groupe à 30 joueurs, par exemple, ou à 20 joueurs, peu importe, c'est des choix techniques. Donc, en général, il faut quand même, pour faire une équipe de ligue, 25-27 joueurs. Et puis, dans certains cas, par exemple, on a pas pu maintenir les deuxièmes équipes dans toutes les catégories. Donc je vous donne un exemple. Quand vous avez une équipe qui évolue en U16 par exemple ou en U17 pour prendre cet exemple, peut être aligné au départ du match les joueurs U17 et les joueurs U16, c'est-à-dire de l'année inférieure. Donc avant il y avait une deuxième équipe U16, une deuxième équipe U17, on a fait une seule deuxième équipe U17 où pouvait jouer et les U16 et les U17. Donc forcément, les coachs disaient, voilà, nous on a notre effectif, toi tu vas être dans la section élite, tu vas pouvoir évoluer en ligue, toi tu vas au moins démarrer l'année dans la section formation, et donc tu joueras en district, avec peut-être l'occasion de jouer en ligue si tu fais tes preuves. Beaucoup de joueurs se disaient, non mais moi j'estime avoir le niveau ligue, donc je préfère aller jouer dans un autre club, où je suis sûr, a priori, d'avoir du temps de jeu, parce que tout ça, on pourrait en parler, c'est bon, voilà. Mais donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont parties parce qu'elles n'étaient pas dans le groupe ou dans l'équipe qu'elles estimaient être le leur.
Vous avez donc 33 équipes à l'heure actuelle, ce qu'on a vu sur le site de la Fédération Française de Foot, dans les grandes lignes.
Oui, alors ça ne prend pas en compte toutes les équipes débutantes, et également tous les formats associés, puisque le club se distingue par la création d'une petite académie. Enfin, ça c'était un projet qu'on avait lancé au niveau du football club dont je suis le fondateur de ce projet. C'était le Baby Gymna Foot qui existe toujours, et c'est notamment Juan Pérez qui en assure la direction. Donc ça c'est un format pour les tout petits, pour s'initier au football, plutôt en salle, pour ensuite arriver sur le terrain. Et puis, vous avez également les stages, c'est un autre format qui se développe à chaque vacances, où on accueille à la fois des gamins du club, mais aussi de l'extérieur éventuellement. On n'est pas obligé d'être licencié pour faire partie de ces stages. Donc, toutes les catégories débutantes, où là, vous avez un nombre important d'enfants qui sont répartis en plateaux, mais il n'y a pas de compétition pour les petits. Donc, ça n'apparaît pas comme des équipes de ligue. Pour autant, ça peut constituer plus de 100 enfants faciles.
Et du coup, avec tous ces joueurs, est-ce que vous arrivez à faire jouer tout le monde ? Enfin, comment ça s'organise pour permettre à tout le monde de
Oui, sur les plateaux, si vous voulez, ce qu'on appelle des plateaux en débutant, il y a une rotation qui est faite. Et là, c'est toujours pareil. Au niveau de l'encadrement, on n'a pas suffisamment. Parce qu'une équipe de débutants, c'est 4 joueurs. Enfin, il y a plusieurs formats, mais en gros, c'est 4-5 joueurs. Et donc, il faut à chaque fois un adulte référent. Donc, on a des dirigeants accompagnants, de ce qu'on appelle des papas relais. Donc il y a des choses qui sont mises en place pour que le maximum de joueurs puissent jouer. Après, dans le football, comme dans d'autres sports, on a parfois un conflit entre l'essence du sport qui veut que tout le monde joue et l'exigence de certains parents qui considèrent qu'ils ont le futur Mbappé et que leur fils doit tout le temps jouer à tel poste, etc. etc. Donc ça fait partie des problématiques à gérer par les bénévoles, et encore une fois, on peut que les remercier.
Et du coup, au niveau du coup de la répartition, quelle répartition au niveau du coup des tranches d'âge, des niveaux au sein du club, quel rapport, et aussi au niveau des joueurs Lambersartois et extérieurs?
Alors, merci de cette question. Il aurait fallu me le dire avant, parce que là, c'est des données qui sont mathématiques et précises. Quand j'étais président, je vous aurais répondu immédiatement. Là, je ne suis plus président et je ne fais plus partie du bureau. Donc, je suis au conseil d'administration, c'est différent. Donc, j'ai pas les proportions de cette saison. Je voudrais pas vous induire en erreur. Néanmoins, de mémoire, on était à peu près à 50% de Lambersartois sur le global. Voilà, on peut penser que c'est peu, mais en fait on peut aussi s'en féliciter parce que en réalité à chaque fois à partir du football à 11, si vous voulez, il y a une grosse mobilité des joueurs. Et puis il y a une problématique qui est très importante chez nous, c'est que quand vous êtes par exemple débutant, vous démarrez, vous êtes Lambersartois, et qu'après malheureusement beaucoup de familles divorcent ou déménagent et ne sont plus Lambersartois pour quand ils renouvellent leur licence, pour autant on va pas leur dire t'as commencé, ça fait 5 ans que tu joues chez nous, tes parents ont déménagé, ils sont à l'homme maintenant, dégage, t'es plus. Non, c'est pas possible. Donc du coup, on a une déperdition naturelle entre guillemets avec ou alors quand ils deviennent étudiants, qu'ils prennent une chambre à Lille par exemple, ça arrive souvent, ils restent dans le club de leur cœur. Donc c'est tout à fait logique. Donc du coup, il faut pouvoir analyser finement quand on parle d'un pourcentage et d'un nombre, il faut faire attention.
Et je voulais aussi en venir sur... Donc vous êtes le plus gros club en termes d'adhérents de la région des Hauts-de-France.
On ne l'est plus maintenant, on a été dépassé. C'est comme on a baissé les effectifs.
Mais vous êtes l'un des plus importants.
Oui, bien sûr, on est le troisième, je crois.
Et donc votre équipe senior évolue en Régional 2.
Oui.
Quand on regarde un peu les clubs autour, je pense à Croix, à Marc, elles ont des équipes en National 3, ce qui fait deux échelons au-dessus de vous.
T'as fait.
C'est le budget, le manque de budget, il n'y a
Mon
que
Dieu,
ça
oui. Ce serait faire injure à ceux qui font des exploits au quotidien. Vous voyez, Valenciennes était en demi-finale de la Coupe de France et pas Marseille par exemple, qui a un budget énorme. Donc il n'y a pas de corrélation toujours entre l'argent et les résultats. Pour autant, dans la durée, évidemment que oui. Nous on a failli jouer la montée cette année avec les 18 qui pouvaient prétendre à un podium qui pouvait peut-être les amener en national. Malheureusement, pour X et Y raison, ça s'est pas fait. Il y a eu des blessures, bref, peu importe, et puis une baisse de résultats, malheureusement. Pour autant, si c'était monté en national, je pense qu'il y aurait eu à la fois beaucoup de joie, mais à la fois beaucoup de peur, parce que le budget, il est énorme quand vous allez jouer à Ajaccio, dans le sud de la France, enfin, c'est colossal. Donc, oui, bien entendu, qu'il y a une vraie corrélation entre le niveau auquel vous jouez et l'argent que vous donne en particulier la collectivité, et ensuite ce que vous allez aller chercher quand vous avez une équipe en National 3. Pour reprendre cet exemple, bien évidemment les sponsors ont une visibilité différente et ils sont prêts à faire un effort que ne font pas pour des équipes de niveau régional, tout simplement.
Mais là, dans l'absolu, ça serait pas possible d'envisager ça quand vous citiez l'état des terrains.
Non. Enfin, on peut toujours espérer. Je veux dire, là, par exemple, ils font un championnat extraordinaire.
Ils sont deuxième au classement. Hein.
Voilà. Malheureusement, c'est une année de réforme, donc il n'y aura a priori qu'une seule montée.
Donc c'est pas les meilleurs deuxièmes.
Non. A priori, il y aura que le premier qui montera. C'est cette année, c'est comme ça. C'est dommage. Alors ils n'ont pas dit, leur dernier mot. Hein, donc, mais il y a une belle jeunesse qui arrive et je souhaite à Mathieu Roubaix, qui est le coach de cette équipe, qui est un ancien joueur professionnel que j'ai connu à Lille à l'époque quand il avait 15 ans. Vous voyez, donc, mais je souhaite à Mathieu de réussir son pari et pourquoi pas d'aller gratter le titre dans les dernières journées. Il y a possibilité de le faire, mais là on arriverait du coup en Régional 1 et ce serait un exploit incroyable d'aller en Régional 1.
Vous l'avez déjà fait, il y a déjà des équipes?
Non, la Régional 1 en fait c'est l'équivalent de la DH avant pour les anciens qui nous écoutent, et déjà là être à l'équivalent de la PH à l'époque, le niveau il est quand même très très important eu égard aux moyens que nous avons. Pour vous donner, je vais vous raconter une petite anecdote assez rigolote. L'année dernière, quand il y a eu il y a deux ans, quand on a eu la fusion, on reçoit un club qui allait devenir champion, qui est Calais. Hein, donc on les bat à la dernière journée et on finit deuxième ou troisième, je ne sais plus exactement. Bref, et je discute avec le président et puis on discute des clubs, etc. Et il me demande quel est mon budget. Qu'est-ce que j'ai pour... Et moi, je lui parle du coup des 80 000 euros, puisque c'était la première année, on avait eu 60 000 euros de subvention, plus 20 000 euros pour aider, parce qu'il fallait renouveler les maillots, etc. Enfin bref, donc on avait eu 80 000 euros. Et il me dit, c'est marrant, on a le même budget. Ah, je me dis, waouh, en fait... et en fait, lui, il parlait du budget pour son équipe senior. Et moi, je parlais de mon budget pour l'ensemble du club. Voilà, tout est dit.
D'accord, oui, donc au niveau budget, il y a vraiment des grosses différences.
Ça n'a strictement rien à voir. Il nous manque, il faudrait que le budget soit de subvention, soit au moins à 100 000 et dans l'idéal doublé, pour pouvoir vraiment mettre en place, humainement et au niveau logistique, quelque chose qui soit vraiment pérenne et top, sans compter les structures qui devraient être remises à niveau. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est colossal et qu'à l'échelle de Lambersart, pour les finances, c'est pas facile. Ça, ok, je partage ce point de vue-là avec le maire et sa municipalité, que c'est important, ok. Là où je ne suis absolument pas d'accord, c'est qu'il n'y ait pas de plan réel et sérieux, il n'y ait pas d'investissement qui soit réel et sérieux, et que cela accouche d'une prise de risque des bénévoles, parce que le président aujourd'hui, si demain il y a un accident sur la route, parce qu'il y a un papa qui était en état d'ébriété, qui a emmené des enfants, etc., c'est lui qu'on va aller chercher. Et ça, moi, je trouve ça pas normal, voire scandaleux. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, après pourtant presque 20 ans d'engagement, je préférais prendre du recul. Voilà, que la ville est obligée de mettre du temps et de planifier une remise à niveau, je le comprends. Il peut y avoir des choix politiques par ailleurs qui peuvent être faits, hein, mais bon, bref, sur la fiscalité, etc. Après, c'est eux qui sont au pouvoir, ils ont pris. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on dise, écoutez, on verra bien, on ne sait pas trop, on va faire de notre mieux, débrouillez-vous comme ça, quoi. Et ça, personnellement, voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre symboliquement un coup d'arrêt et pas cautionner ce choix. Voilà.
D'accord, merci pour cette réponse. On arrive doucement à la fin de cette interview, il nous reste encore quelques questions.
Oui.
On voulait parler un peu de foot féminin. Où en êtes-vous? C'était revendiqué comme un des objectifs de développement du club.
Bien sûr.
Où en êtes-vous au niveau des équipes féminines?
Ça se passe bien. Les équipes féminines jouent à un bon niveau également, en régional également. Le foot féminin, encore plus, je dirais, que le foot masculin, a besoin d'encadrants de qualité. Et on revient à la même équation, hein, les moyens mis à disposition. C'est pas un hasard si le club anciennement de Bousbecq, qui maintenant est à Roubaix, etc., a réussi à développer des équipes qui jouent à un très très bon niveau, parce qu'il y avait une concentration de moyens sur une seule équipe, avec notamment un président qui a fait un travail apparemment assez exceptionnel avec un carnet d'adresses pour concentrer les moyens et les sponsors. Donc, ce qu'on retrouve sur le foot, les difficultés du foot masculin sont les mêmes sur le foot féminin. Il y a un véritable enjeu parce que je pense que le foot féminin doit continuer à se développer et j'espère que ce sera le cas, mais c'est l'ambition des dirigeants qui se battent pour ça.
Et actuellement, quelle part, sans donner de chiffres précis, quelle part représentent les équipes féminines au sein du club?
J'ai pas le chiffre, mais je dirais 20%, mais je préfère avoir vraiment beaucoup de prudence sur le chiffre que je vous annonce. Là aussi, j'aurais pu avoir quelque chose de précis. Mais voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a un décalage pour l'instant entre la fédération qui impose au club pour avoir certains labels de développer le foot féminin et tout simplement la demande des filles qui certes sont de plus en plus nombreuses, mais de là à remplir les effectifs de tous les clubs qui souhaitent se structurer, c'est pas facile. Donc on a un phénomène, moi que j'avais observé en partant, qui est un peu un phénomène de groupe, où vous avez un groupe de copines qui arrivent dans un club, qui va jouer, etc. Et puis si le club ne répond plus à leurs attentes pour x ou y raison, le groupe entier va se déplacer et va aller dans un autre club qui est ravi de les accueillir parce que de toute façon il manque de l'effectif. Et du coup, quelle que soit la qualité finalement du travail qui a pu être fait dans le club initial, parfois ils ne peuvent pas repartir l'année suivante parce qu'il leur manque de l'effectif. Donc c'est dommage, j'espère, c'est pour ça qu'il faut en fait développer encore plus pour moi le foot féminin pour très vite arriver au fait que le foot féminin se démocratise de plus en plus et que ce soit une option. On entend encore trop souvent des parents dire oh, c'est une fille, elle va quand même pas faire du foot, quoi. Voilà, c'est un peu dommage.
Et pour le mot de la fin, quel est votre objectif à vous avant d'en venir à ceux de l'Union Foot? Est-ce que vous allez continuer de vous impliquer dans les prochaines années? Revenir un jour
le fameux comeback.
Ouais, ouais.
Je vous cache pas que...
Parce qu'on vous sent, voilà, très attaché forcément avec toutes ces années passées. Il y a aussi cette envie de professionnaliser, enfin de structurer encore plus le club. Il y a du potentiel. C'est quoi vous vos ambitions à court et long terme?
Vous savez, ma seule ambition personnelle dans un avenir proche, c'est de voir le club continuer à exister et à progresser. Et moi, je n'y fais, au regard de ce que j'ai pu faire par le passé, je n'y fais plus grand-chose. Je suis un simple et très modeste dirigeant. Si on me demande un coup de main ponctuellement demain, je le donnerai. Il se trouve que j'ai des enjeux personnels, professionnels, qui font que j'ai moins de disponibilité que je n'en ai eu par le passé, parce que comme j'avais quitté le club, j'ai pris d'autres paris, d'autres fonctions. Donc, ma petite personne n'est pas très intéressante. Moi, j'accompagne quand je peux. J'ai un fils qui joue encore là-bas et j'en ai un autre qui va peut-être démarrer dans un an ou deux. Donc, j'ai un petit. Donc, si ce petit-là est attiré par le ballon, peut-être que oui, j'y retournerai, mais pour donner un petit coup de main comme je l'ai toujours fait, parce que vous savez, le bénévolat, voilà, l'implication associative, c'est un ADN quelque part. Moi, je ne sais pas aller quelque part. Par exemple, je vais dans n'importe quelle association, parents d'élèves, machin, tout ça. La réunion se termine, je reste pour ranger les chaises. Vous voyez, c'est un truc qui peut paraître tout bête, mais la plupart des gens aujourd'hui consomment les associations, de football comme ailleurs, et ils pensent que c'est quasiment une entreprise et qu'ils ont des droits et aucun devoir, quoi. Donc voilà. Donc moi, à titre personnel, pour répondre très clairement à votre question, je ne me refuse aucune possibilité. J'ai été aussi dans des clubs pro pendant quelques années au recrutement. J'ai notamment participé au recrutement de Raphaël Varane à Lens à l'époque. Donc vous voyez, si vous lisez la biographie de Raphaël Varane, je suis cité deux fois. C'est mon titre de gloire. Mais bref, moi je me refuse rien, mais j'ai pas d'attente. Mais bien entendu, j'espère, je porte le vœu que le club ait vraiment une évolution, l'évolution qu'il mérite, ne serait-ce que pour les bénévoles qui s'y investissent.
Merci beaucoup d'avoir passé du temps ce temps-là avec nous en studio et d'avoir répondu à nos questions.
C'est un plaisir.
Merci à vous. Et
on va conclure du coup sur ce point-là l'interview. Merci donc encore une fois d'être venu dans l'Ambersart en Onde, cette 6e édition. On espère que ça aura intéressé nos auditeurs et que ça vous aura plu aussi de passer ce moment avec nous.
Avec plaisir, oui, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.